Et oui, vous avez reconnu le générique, il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Le générique de Vendredi Théâtre, toutes les semaines l'actualité théâtrale sur Montpellier. Et je suis avec toute l'équipe de Vendredi Théâtre, je suis avec Tito, l'inénarrable Tito. Bonjour Tito.
Bonjour.
Je suis avec Christopher, bonjour Christopher.
Bonjour.
Et avec la belle Grazia, bonjour Grazia.
Bonjour.
Alors, un premier plateau où nous allons parler de Feydeau, puisque Un fil à la patte de Georges Feydeau est à Jean Villard, et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Jean-Claude Fall, bonjour.
Bonjour.
Et Patty Hanok, bonjour.
Hello.
Alors Jean-Claude, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu à l'antenne de Divergence.
Si longtemps que ça.
Oh, il y a... La dernière fois, c'était Hôtel Palestine, je crois.
C'était Hôtel Palestine.
Oui, oui, oui.
Alors là, Un Feydeau, donc vous avez mis en scène Un fil à la patte. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène un Feydeau?
Je dis ça depuis longtemps, donc j'ai l'impression de me répéter, mais en fait pas du tout. J'avais un rendez-vous avec Feydeau depuis très très longtemps. C'est un auteur que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des ateliers de travail sur Feydeau, sur les mécanismes du rire chez Feydeau qui sont absolument prodigieux. Et donc voilà, sur ce rendez-vous, il est arrivé là. C'est un peu étrange, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Tout d'un coup, un projet arrive à maturité, là, c'est le moment. Alors, c'était le moment, j'ai eu très envie de le faire. Et en plus, j'ai l'équipe pour ça. L'équipe pour faire ce Feydeau était dans ma tête... assez clairement, entre David Ayala pour faire Bois d'Anguin, pour jouer Bois d'Anguin, Roxane Borgna pour jouer Lucette, Patty Hanok pour jouer la baronne, Patty qui est là avec nous,
Madame la baronne.
Dominique Ratona qui joue Bouzin. Alors Greg Nardella, j'avais pas pensé tout de suite à lui pour le général, et puis tout d'un coup ça m'est apparu comme une évidence. Je me suis dit, mais enfin voyons, Jean-Claude, c'est Greg Nardella. Et je dois dire que je me suis pas trompé, il est un général Irrigua, qui est absolument, c'est le général Alcazar de Tintin. Enfin, ça fait penser à toutes ces figures de bandes dessinées ou de films d'ailleurs, de général sud-américain complètement fou. Et il est prodigieux.
Alors c'est un vaudeville, un fil à la patte, et vous avez repris un peu la tradition du vaudeville où il y a des passages musicaux.
Oui, alors ça a été aussi très 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 vite. Tout de suite, j'avais cette envie de mettre de la musique dans ce fil à la patte, parce que j'avais l'impression en lisant la pièce que c'était un peu écrit pour ça. Le troisième acte est chanté dans Feydeau, c'est écrit parce que Viviane fait semblant d'être à une leçon de chant, donc ils font tout leur dialogue en chantant. Et à partir de là, plus un certain nombre d'autres indices, comme le fait que Lucette est une chanteuse de cabaret, qu'on parle beaucoup de chansons de cabaret dans le spectacle. Et puis il y avait plein d'éléments dans le texte où c'est écrit « tous ensemble »,« ensemble », etc. Donc le côté choral de l'écriture de Feydeau dans cette pièce était très évident. Et je me suis dit, ça appelle de la musique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je me suis rendu compte après que Feydeau y avait pensé, mais qu'il ne l'avait pas, n'avait pas mené à bien cette idée de revenir à un vaudeville avec musique, mais il y avait pensé pour le fil à la patte. Donc, cette intuition s'avère être plutôt juste. Après, il fallait rencontrer un musicien pour écrire cette musique. Et j'ai demandé à Ghislain Hervé, mon compagnon de toujours, et à Patty Hanok de me conseiller sur qui pourrait écrire une musique qui soit à la fois, qui rappelle quelque chose du vaudeville, bien sûr, de l'opérette, mais aussi qui aille vers des choses plus jazz, plus aussi... Je pensais au Parapluie de Cherbourg, à ses dialogues chantés, etc. La réponse des deux a été immédiate, Reinhard Wagner. Et j'ai écouté la musique de Reinhard Wagner, j'ai rencontré Reinhard Wagner, on s'est entendu tout de suite comme deux larrons en foire, et la musique est partie, mais instantanément. C'est-à-dire, je lui dis, tiens, on pourrait faire ça en musique, le premier jour, il était au piano, il m'a joué ce que nous chantons réellement aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était très instantané chez lui. Il est comme ça d'ailleurs, lui, naturellement. Et les choses ont coulé de source très très simplement, très facilement.
Alors tout le monde l'a vu, filé à la patte. Qui veut commencer ? Tito, tiens, tu es juste en face
oui,
de moi.
Oui, ben, puisqu'on est dans la musique, je crois que le vaudeville, c'est une question de rythme. Hein, il faut être dans les temps. La porte claque, tac, 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 tac. Je sors, tu entres. Papa. Est-ce que la musique n'aide pas dans ce cas-là ? Je te demande d'avoir aussi hein, la musique, d'être toujours dans un certain rythme.
Je dirais que absolument. Et c'est-à-dire que bon, ça nous incombe d'être absolument précis dans le jeu. Jean-Claude nous tient à ça tous les jours presque. Et c'est vrai, on ne peut pas avoir des choses à côté. Mais là, hier soir, c'était un bel exemple de la musique et le jeu marchant absolument ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont pulsé davantage hier soir et nous avons joué davantage, avec davantage de rapidité, de dextérité, je dirais. Et c'est presque impossible de dire d'où ça vient, mais la musique et le jeu ensemble, c'est incontestable qu'il y a cette...
Et il y a une musicalité dans l'écriture de Fedot. Mmh. Ça implique une musicalité au sens de la rythmique principalement, mais pas que de la rythmique d'ailleurs, de la dynamique générale. Mmh. Et bon, on parle tous les jours, Patty le dit, je reviens tous les jours là-dessus, c'est d'une importance capitale. Il faut que ce soit musical, il faut que nous soyons comme des virtuoses, des instrumentistes virtuoses. Et dès qu'on commence à prendre le temps de jouer un peu des choses un peu psychologiques. J'ai rien contre la psychologie, hein. Mais ça se met à dysfonctionner parce que c'est écrit pour une certaine rythmique et une certaine dynamique. Et on est toujours en train de travailler là-dessus. Tous les jours, on travaille là-dessus.
Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les décors aussi, parce qu'on a l'habitude de voir des mises en scène poussiéreuses de Fedot avec du papier peint sur les murs, décors bourgeois. Et là, pas du tout. Pas du tout.
Non, pas du tout. Ça, c'était un enjeu aussi très, très essentiel. Dans un texte, je parle de mise à nu. C'était vraiment l'objet. Hein. Le décor, c'était une mise à nu du décor. De la même façon que dans le texte, j'ai beaucoup enlevé, dépoussiéré le texte. Mmh. J'ai pas mal enlevé de petites expressions en trop, qui sont des choses qui se jouaient à l'époque de Fedot. Mais aujourd'hui, on joue beaucoup plus vite. Le spectateur entend plus rapidement et tout se passe plus vite. Donc, on a besoin de dynamiser aussi. On avait besoin de dynamiser le dialogue pour simplement retrouver la dynamique de Fedot lui-même. Hein. Et donc, cette mise à nu commençait par le décor. Je voulais absolument pas d'un décor justement papier peint, divan,
au théâtre ce soir.
Machin, au théâtre ce soir. Et on se demandait comment on allait pouvoir éviter ce piège. Et à un certain moment, l'idée d'un squelette de décor, d'un décor un peu constructiviste, on pourrait dire, est arrivée. Et on s'en est saisi et on l'a travaillé beaucoup parce qu'il fallait rendre ça possible. Et ça compliquait encore plus les choses. C'est ça qui m'intéressait aussi. Le défi était d'être devant une matière qui compliquait encore toute la circulation des acteurs pour arriver au bon moment. C'est-à-dire que tout est calculé. Mmh. Alors chez Fedot, c'est un peu plus simple. Enfin, dans le type de décor bourgeois, c'est un peu plus simple parce qu'il suffit d'ouvrir la porte au bon moment. Mais dans ce décor complètement dénudé où les acteurs sont sur le plateau tout le temps, le calcul pour arriver à la porte au bon moment doit se faire depuis les coulisses jusqu'au moment où on arrive à la porte. Et donc c'est vraiment, là c'est millimétré. Hein,
ah
c'est
oui.
Vraiment, ça c'est un exercice de haute voltige.
Alors pour résumer l'intrigue, parce que c'est pas facile de résumer une intrigue de Fedot, parce qu'il y a des rebondissements, il y a des quiproquos, il y a des quiproquos sur quiproquos sur quiproquos. On pourrait dire qu'en fait un fil à la patte, c'est Roxane dans la pièce, c'est Roxane Borgna.
Je sais pas si c'est Roxane Borgna ou si c'est Viviane. Ça pourrait être aussi sa future épouse, le fil à la patte. C'est aussi Lucette. J'ai voulu faire de cette histoire, dans cette histoire, j'ai voulu raconter une histoire d'amour. ce qui n'est pas toujours le cas dans cette pièce. On raconte souvent l'histoire de cette façon. Bois d'Anguin est un bon vivant qui a une gourgandine Lucette dont il veut se débarrasser pour pouvoir épouser Viviane. Et il ne sait pas trop comment s'y prendre, il s'y prend mal, il commence par un gros mensonge et tout s'enchaîne jusqu'à une catastrophe généralisée qui finalement se résout bien à la toute fin dans une pirouette. Moi, je n'ai pas voulu raconter cette histoire-là parce que je ne crois pas que ce soit l'histoire. Quand on lit la pièce, Lucette et Bois d'Anguin sont un couple qui existe depuis plus de 15 ans. Donc c'est un vrai couple. Ils se sont connus étudiants et puis ils ont vécu ensemble jusqu'à l'âge de, je ne sais pas, vers 35 ans, quelque chose comme ça, où il faut se ranger des voitures. Et Bois d'Anguin essaye de trouver une issue, c'est faire un mariage d'argent avec la fille de la baronne. Et autour de Lucette, son petit clan, sa petite tribu n'arrête pas de la pousser dans les bras du général richissime, le général Irigoyen, qui elle n'en veut pas et Bois d'Anguin n'arrive pas à quitter Lucette. C'est trop difficile, il l'aime trop, il s'aime trop pour que ce soit possible facilement. Et c'est cet amour aussi qui les conduit à... c'est aussi cet amour, le fil à la patte.
C'est vrai que le général, il est tout à fait truculent. C'est le général Alcazar, quelque part.
Ah oui, c'est clairement le général Alcazar. J'adore Tintin. Et c'est une figure de mon enfance.
Je voudrais revenir sur un thème qui revient très souvent dans les pièces de Feydeau. Enfin, moi, il me semble, c'est la folie. La folie des situations. On est toujours au bord d'un gouffre de folie.
C'est ça aussi, j'en ai beaucoup parlé. Je voulais quelque chose qui respecte cette dinguerie de Feydeau. Feydeau, c'est pas la biche, c'est pas Courteline, encore moins. Parce que eux sont relativement sages dans leur écriture. Ils écrivent des situations cocasses et qu'ils développent à la façon du vaudeville, mais il n'y a pas le grain de folie qu'il y a chez Feydeau qui lui-même
est mort
dans un asile psychiatrique. Donc cette dimension-là impliquait là aussi des techniques rythmiques, etc., qui s'apparentent à des choses qu'on trouve dans le cinéma. Patty là, peut en parler aussi, dans le cinéma anglo-saxon, c'est le slapstick, c'est la dynamique des dialogues.
Dans les Marx Brothers aussi.
Dans les Marx Brothers aussi, bien sûr. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ces choses-là et pour rendre compte de cette folie, mais de folie furieuse. Il y a des situations qui sont complètement abracadabrantes. Et ça frôle le théâtre de l'absurde. On a dit souvent de Feydeau qu'il était un précurseur du théâtre de l'absurde. C'est un précurseur du théâtre de l'absurde.
Comment se fait-il qu'une salle de bain donne sous le palier?
C'est un appartement de Feydeau.
Oui, absolument. On va faire une petite pause musicale et puisqu'on parle de folie, on va écouter Marianne Oswald, mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint.
Si tu vas chez mon oncle Eustache, près des abattoirs de Besançon, je te préviens pour que tu saches, tout est changé dans la maison. Mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. Buffet en pichepin, la cabane à lapin. Mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. Les meubles en rotin, la huche à pain et la grande armoire en sapin. Un jour, les voisins du village l'ont invité pour déjeuner. Mon oncle se mit à l'ouvrage dès qu'ils eurent le dos tourné.
Tout repeint, tout repeint, tout repeint. Le buffet en fiche-pain, la cabane à lapin. Mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint.
Les meubles en rotin, la huche à pain
et la grande armoire en sapin.
En arrivant à la caserne pour y faire ses 18 mois, mon oncle a dit capitaine, vous allez voir compter sur moi.
Mon encre à tout repas, tout repas, tout repas. Le buffet en biche-pain, la cabane, un lapin. Mon encre à tout repas, tout repas, tout repas.
Les meubles en rotin, la huche à pain.
Et la grande armoire en sapin.
Il a sa manie imbécile, ne lui réussit pas du tout. Le conduire à l'asile, mais dès qu'il fut avec les fous,
mon oncle a tout rapin, tout rapin, tout rapin.
Les meubles en rotin, la huche à pain
et la grande armoire en sapin.
Et oui, Marianne Oswald, mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint, un enregistrement de 1933. Nous sommes avec Un fil à la patte, la pièce qui se passe à Jean Villard. Je suis avec Jean-Claude Fall et Patty Hanok pour nous parler de cette pièce. Et qui veut intervenir maintenant, Christopher ou Gradia? Vous avez vu la pièce. Allez, Christopher.
Bon, je voulais surtout rappeler qu'on a surtout passé un agréable moment et on a beaucoup rigolé et on a parler là de l'aspect choral, on a vraiment l'impression que la pièce est vraiment orchestrée. Alors, ça commence, on commence à rigoler, et ça monte et de plus en plus au fur et à mesure. Il y a une progression du comique qui finit par vraiment des explosions de rire. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir tout le répertoire comique, tous les stratagèmes comiques dans le texte de Fedo, et la manière dont c'est mis en scène et le texte, je trouve pas que ça fasse vieillot, hein. Je trouve ça très 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 drôle même actuellement.
Je disais, c'est une encyclopédie du rire, Fedo, vraiment. Et cette pièce-là en particulier. En fait, il y a deux pièces qui pour moi sont cette encyclopédie du rire, c'est La Dame de chez Maxime et celle-ci. C'est vraiment, c'est comme s'il avait voulu écrire toutes les techniques, se saisir de toutes les techniques de mécanique du rire. Le jeu de mots, ça part du jeu de mots tout simple, hein, le sceptique, sceptique, scandale, sandale, et jusqu'à des comiques de situation complètement dingotes, et le comique de répétition, le comique de situation. Voilà, le comique de répétition avec Fontanet qui pue de la gueule. Et donc, chaque fois qu'il s'approche de quelqu'un, boum, il est quasiment en train de s'évanouir.
Le langage du général.
Ah oui,
il, elle, ou qui.
La langue du général aussi qui oui, qu'il invente un français. Il dit qu'il était professeur de français. Tout est construit. Il invente une langue dont il pense que c'est le français. Tout le monde rigole parce que c'est absolument pas français.
On comprend rien.
Et un jour, à un moment, on comprend qu'il a été professeur de français dans son pays. Lucette lui dit « Ah bon, vous le parliez donc ?» Il dit « Dans mon pays, je le parle bien, mais ici, je ne sais pas pourquoi, je le parle mal. »
Ça fait beaucoup rire, Tito. Oui, beaucoup rire.
Parce qu'ils n'ont pas changé. Ils continuent de le penser comme
oui,
ça.
Oui.
Mais je trouve en plus que le choix de ces décors qui laissent voir aux spectateurs l'intervention, quand est-ce que les acteurs arrivent. Par exemple, bon, on voit déjà le général arriver, on s'attend déjà à rigoler et on en rigole encore plus.
Bah, ça, c'est bien. Ouais.
C'est bien si ça produit ça. Ouais.
Oh, ça a très bien marché.
Grazia.
Oui.
Donc, tu partages le micro avec Christopher.
Oui, alors voilà. Alors, sur le décor, tout a été dit. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Effectivement, on sait déjà quelle est la situation suivante, parce que les acteurs étant toujours sur scène.
C'est marrant parce qu'il y a une réplique qui fait hurler de rire à chaque fois à la salle. C'est quand Firmin annonce le retour de Bouzin. Tout le monde le voit qu'il est en train de revenir.
Oui,
tout le monde voit
oui.
qu'il est là et ça arrive pile, évidemment. Ça arrive pile poil au bon moment et il dit... Monsieur Bouzin, et tout le monde exclame de rire, alors qu'on le voit depuis 5 minutes, en train de se préparer à entrer.
Ce formidable Bouzin, Dominique Ratonna, il est formidable, hein, Bouzin.
Ouais.
Mais je voudrais aussi revenir un peu sur les rôles féminins. Ça m'a fait... effectivement, donc, vous parliez d'une histoire d'amour, et ça, moi, je l'ai ressenti comme ça. Hein. Lucette est un personnage fragile, est un personnage un peu
c'est presque un personnage tragique, dramatique et tragique.
Dramatique, oui. Hein, mmh. Voilà. Et avec cette sœur italienne qui jure en italien, moi, alors. Moi, je connais tous ces jurons.
des exemples.
Filia di una mignotta.
Oui, oui. Et je me suis demandé, vous lui avez demandé comment on traduirait en italien un fil à la patte?
Non.
Ah, moi, je pensais à una palla al piede. Demande de lui.
Ah ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. J'ai pas demandé, mais je voulais. Patty est là. La baronne ne parle pas l'anglais.
Oui.
J'ai trouvé ça complètement dingue de confier le rôle de la baronne à Patty Hanok qui est anglo-américaine. De la même façon, Isabelle Fürst, qui ne parle qu'anglais, ne parle pas un mot d'anglais dans la vie. Et ces petites torsions-là qui créent aussi du comique, qui rajoutent un peu, qui empilent un peu d'autres situations comiques.
Et ça, vous l'aviez en tête, le choix des comédiennes. Enfin, vous avez italianisé ces deux personnages, quand même. Enfin, je veux dire,
oui.
Et vous l'avez choisi, vous l'avez voulu ou...
les deux sœurs italiennes, oui, ça c'était très clair dans ma tête. Parce que il y a une scène où tout le monde s'en va, elles restent toutes les deux seules et ça explose en italien, elles s'engueulent, etc. Je me suis dit, là c'est vraiment des latines et je voulais absolument qu'Anna Andreotti fasse partie de la distribution et Roxane est aussi d'origine italienne et donc je me suis dit, là il faut que ce soit les deux sœurs italiennes. Comme dans les affreux ça les méchants, enfin des trucs, les films italiens réalistes là. Et pour Patty, c'est Patty qui a pas mal œuvré.
Non, c'est-à-dire qu'au départ, évidemment, Jean-Claude m'a proposé de jouer Miss Petting et Nini. Mais Miss Petting, j'avais pas envie de jouer une Anglaise parce que on me demande toujours de jouer des Anglais. Je ne sais pas pourquoi des Anglaises. Je n'arrive pas à comprendre.
Vous aviez déjà proposé ça dans une autre pièce. Je ne me souviens pas exactement.
On m'avait déjà proposé de jouer Miss Petting il y a très très longtemps dans une mise en scène. C'était au Palais Royal. Enfin, j'ai fait l'audition, mais c'était en 85. C'était Jean... Comment il vient de mourir. L'acteur, metteur en scène qui vient de mourir.
Oui.
Ah,
ça va nous revenir. Ça va nous revenir.
Au Palais Royal, qui était vraiment un des fidèles au Phédon, en tout cas. Mais bon, ça, c'est pas fait, parce que je suis partie à Londres pour jouer dans une autre pièce, mais j'adorais le personnage de la baronne, et je me suis dit, c'est aussi, quand on pense au Marx Brothers, c'est un peu le personnage, la dame qui reste imperturbable. Oh, elle essaye de l'être. Tandis qu'il y a une espèce de folie qui se déchaîne autour d'elle. Et je trouvais ça très drôle. Et puis aussi, j'ai l'âge pour jouer la maman.
C'est remarquable, votre interprétation.
Et donc, au moment où je me suis dit, c'est quand même... Il faut profiter de Patty à fond. Et donc, je me suis dit, une baronne qui ne parle pas l'anglais, jouée par une Anglaise, ça ne peut qu'être que participer à l'œuvre de Phédon. Mais vous parliez de tragédie. Et pour chaque personnage, il y a un temps de tragédie qui peut durer 3 secondes. Hein. Fontanet, il arrive, il ouvre une porte, il dit « Je peux rester avec vous parce que là, je suis tout seul comme un pestiféré dans mon coin, personne ne veut me parler, je ne sais pas pourquoi. » C'est sa tragédie. Chacun a son temps de tragédie. Et on y a travaillé, hein. c'est vraiment un objectif. Et évidemment, Lucette, c'est une tragédie. Après, elle est aussi dans la comédie, bien sûr, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment les contrastes se créent. Par exemple, dans le troisième acte, qui est une folie totale, ils se terminent tous, les deux sont à poil sur le palier, enfin bon, c'est complètement dingo.
Quels sont les léopards?
C'est un petit rajout. et je voulais qu'il y ait ce contraste-là, c'est-à-dire que dans le troisième acte, au cœur du troisième acte, il y a une scène... Une vraie scène de tragédie.
La vie, quoi.
Ouais.
Et on sent aussi que les comédiens, ils jubilent.
Ah, on se régale.
Dans toute la pièce, vous vous régalez. Et puis David, il est énorme. David, il est énorme. La scène avec son caleçon léopard où il se retrouve sur le palier, c'est vrai que c'est complètement délirant, complètement fou.
Non, mais il n'est jamais si bon que dans la démesure, David.
Et comment ça s'est passé vis-à-vis du public parce que c'est un spectacle qui tourne depuis quelque temps déjà.
On a eu vraiment un accueil ultra chaleureux partout où on est allé. Vraiment, à 7, où on a créé le spectacle, et là je salue Yvon Tranchant qui a été vraiment pour nous un sauveur, on peut dire, parce que ce projet est un projet compliqué à mettre en place. Il fallait vraiment qu'on trouve un vrai grand partenaire. Et c'était,
oui, il y a 12 comédiens sur scène.
Il y a 12 comédiens, 3 musiciens. C'est un vrai gros projet. Et donc, il nous a vraiment épaulés. Puis ensuite, on est allé à Alès. Là aussi, on a joué devant 2 salles de 800 places à peu près.
Ah oui.
800 personnes. C'était vraiment de très, très, très grosses salles. Et là aussi, le public a été avec nous très chaleureux, surtout la deuxième représentation. Ensuite, quand on est allé à Nice, on a fait 4 représentations, dont 2 absolument faramineuses, mais où les gens étaient mais debout, quoi, pliés de rire, du début à la fin. Il y a des temps comme ça, il y a des moments extraordinaires où on sent la salle basculer et vous avez des individus. Hein, on entend des gens qui ont des fous rires inextinguibles qui durent pendant 5 minutes.
Tout le monde regarde Tito.
10 minutes de fous rires inextinguibles. Ils n'écoutent plus la pièce. Ils sont tellement dans le fous rire que n'importe quoi peut les faire rire. Quoi. Ça, c'est jouissif.
Qui veut rajouter quelque chose, Tito? Tu n'as pas dit grand-chose encore.
Moi, j'avais des choses sérieuses, là, j'ai pas envie. Non, si. Moi, j'ai eu un bonheur à Montpellier il y a 2 ans, parce que j'ai toujours adoré ces théâtres où on chante comme dans la revue à la portugaise, où les gens chantent avec, ils connaissent par cœur les airs, donc ils chantent avec les... Ils vont voir 2 fois, 3 fois le spectacle, ils savent tout. Ils savent déjà, ils rient déjà par avance parce qu'ils savent ce qui va se passer. Et à la Comédie, une fois, il y a eu enfin quelque chose que j'attendais depuis longtemps. C'était à la Péricole, à la fin, on a chanté ensemble et Il grandira. Et là, j'étais vraiment aux anges. Et hier, j'ai fait un petit essai, mais ça n'a pas marché.
La salle t'a pas suivi.
Non.
La salle t'a pas suivi. C'était... Quelle horreur, c'est ça?
Non, en tout cas, on rit Cardia. Beaucoup. Et c'est vrai qu'on rit, nous aussi, on rit. Hein, le public, enfin, moi personnellement, j'ai commencé à rire. Et puis après, petit à petit, ça montait. Je ne pouvais plus m'arrêter. C'est très, très, très jouissif.
Mais c'est vrai que c'est un spectacle qu'on a envie de revoir parce qu'on a tellement ri la première fois. Je me suis dit, mais j'ai rêvé.
C'est mieux chauffé, je crois, comme on dit. C'est-à-dire, c'est mieux de, je crois que c'est encore mieux deuxième fois parce qu'on va anticiper les blagues, on va les situations comiques et donc on va rigoler dès le moment où on anticipe jusqu'à la fin de la blague. Et là, ça va être très très bien.
Et c'est vrai que la salle était blindée à Jean Villard. Je pense qu'hier c'était pareil et ce soir ça risque d'être blindé. Donc est-ce que ça va tourner encore ce spectacle?
J'espère bien qu'on fasse une reprise à Montpellier. J'y travaille. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire, mais j'aimerais bien le faire. Parce que je trouve que voilà, c'est dommage de ne l'avoir joué que 3 fois à Montpellier. Je pense qu'il y avait vraiment la possibilité de faire.
Il y a le public hein, qui est là.
Ah bah oui, c'est quasi complet. Mais les gens peuvent se présenter le soir même. C'est rare qu'on refuse du monde. Hein.
Oui.
Mais c'est blindé.
Et après, ça va tourner dans le coin ou ailleurs?
Non,
ou...
là, c'est notre dernière date, c'est ce soir.
Ah.
Et ensuite, on fait une reprise la saison prochaine. On repart en tournée la saison prochaine. J'espère qu'on fera un nombre suffisant de dates. Mais enfin, c'est difficile. Vous savez, les temps sont difficiles.
Les temps sont durs.
Et donc, vendre un spectacle avec 18 personnes, c'est difficile.
C'est un projet ambitieux. En tout cas, c'est au Théâtre Jean Villard ce soir. Vous pouvez vous présenter. Il y a toujours des places qui se libèrent au dernier moment.
Absolument.
Hein, c'est à 20h et vraiment tout le monde a adoré le spectacle. Tous les chroniqueurs qui ont vu le spectacle, tout le monde était mort de rire. Donc essayez d'y aller, essayez de trouver une place ce soir à 20h au Théâtre Jean Villard. Eh bien, on va se quitter. On parlait du général...
Erriway, il s'appelle.
Voilà. Eh bien, j'ai retrouvé dans mes archives une chanson des frères Jacques, le général de Castagnettes.
C'est lui.
Il était né à Mexico, c'était un drôle de zigoto, ça n'est pas qu'il était costaud,
mais ça fait qu'il était très bon. sans sombrero, il avait un pistoletto avec des sabres et des couteaux. Que ça donnait froid dans le dos. C'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas. C'était vraiment, c'était un étil fantastique.
C'était un as,
c'était un as, un très grand as.
Sa moustache était comme ça, ses épaulettes comme ça.
Son sombrero grand comme ça, ma lui n'était grand comme ça.
Ma, c'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas.
Ah, il faut faire bien attention avec ces révolutions, qui est pour un oui, qui est pour un non. On prend une balle dans le citron.
Sa mort était pour la nation une terrible perdition. Et c'était pour cette raison qu'il sortait pas de sa maison.
C'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas.
C'était vraiment,
c'était un étil fantastique.
C'était un as,
c'était un as,
un très grand as.
Il avait des médailles,
tout ça,
un masque à gaz,
comme ça,
dos arquebus,
non pas dos, tres arquebus,
comme ça, lui tout seul qui était grand comme ça,
non pas comme ça, hein, comme ça,
mais c'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas.
Pourtant on eut besoin de lui. On vint le cercer une nuit, que cette fois dans le pays, ça sentait un peu le roussi.
Mon général Hardy, Hardy, debout là-dedans,
qu'on lui a dit.
Mais il en fut tellement surpris
qu'il en tomba mort dans son lit.
C'était le plus grand général du Mexique,
José de las Castañetas.
On lui fit des funérailles fantastiques,
funérailles nationales,
avec des larmes comme ça,
des couronnes comme ça,
des discours longs comme ça,
pour les quêtes grands comme ça.
C'était le plus grand général du Mexique, y'a pas que chez eux qui en a comme ça, dedans on en a vu des tas, des petits, des grands, des gros, des grands. Honda!
Divergence FM.
Tu penses à quoi exactement ?
Ça m'a toujours semblé étrange. Quelqu'un vous aime passionnément, passionnément.
L'amour.
Et d'une minute à l'autre, plus rien. Plus rien. Plus rien. Ça fait tellement mal.
Dans les rues de la ville, il y a mon amour.
Dès que je pressens que quelqu'un va me quitter, je quitte tout de suite. Avant d'entendre l'explication en entier. 93.9. Toujours la même chose pour moi. Séparation, dépression.
Tu veux en venir où, là ?
Récupération par la boisson, rencontre d'un garçon, puis d'un autre polisson.
Qu'est-ce que t'es en train d'essayer de dire ?
Quelques parties de jambes en l'air, pour oublier ce cher garçon, et puis après trop de vide, on cherche à nouveau l'amour de notre vie.
T'es pas un peu anormal ?
Je veux être seule, reste là, toi ta gueule.
On cherche un peu partout, et enfin après 2 ans de désespoir et de solitude, on trouve un autre amour jusqu'à la prochaine fois. Prochaine fois.
Oh, vous savez que j'aimerais mieux une paire de claques qu'un autre méchant.
Il y a un moment où on peut plus se remettre d'une autre séparation. Et que même si cette personne vous emmerde 60% du temps, eh ben on peut pas vivre sans elle. Que même s'il vous réveille tous les matins en vous éternuant en pleine figure, eh bien on préfère ses éternuements à tous les baisers des autres. Des autres. Des autres. Des autres.
C'est vrai ?
Divergence FM.
Oh non, c'est trop beau ça !
93.9.
Et oui, Divergence FM, le 93.9, avec les jingles de Divergence FM. C'est des jingles maison, des réalisations maison. Vous êtes toujours sur Vendredi Théâtre. Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de l'actualité théâtrale sur Montpellier. Une émission où on voit les spectacles, on a plusieurs regards sur les spectacles avant de recevoir les invités. Un deuxième plateau avec un spectacle qui se déroule au théâtre Pierre Tabar. Il se passe toujours quelque chose à Pierre Tabar. Lettre d'une inconnue. Je suis toujours avec Christopher et Tito qui ont vu le spectacle et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Dominique Couret, bonjour.
Bonjour.
Et Marie-Hélène Lelièvre, pardon.
Bonjour.
Alors, la lettre d'une inconnue, c'est une adaptation pour la scène d'un texte de Stefan Zweig qu'il a écrit en 1922, si je ne me trompe pas.
Joli. oui, c'est un texte, une pièce que j'avais vue plusieurs fois déjà et qui m'emmenait très loin dans des émotions extrêmement fortes. Et j'avais envie de le monter, mais là, ce n'est pas une distribution à 15 comédiens comme le fil à la patte, mais il fallait la comédienne. Et donc, j'ai attendu une quinzaine d'années avant de trouver la comédienne qui pouvait jouer. Et je l'ai trouvée.
Alors, Christopher et Tito, vous avez vu le spectacle. Comment est-ce qu'on pourrait résumer l'intrigue un petit peu de Lettre d'une inconnue ?
Le résumé, il s'agit d'un écrivain qui reçoit une lettre d'une jeune femme qui vit une histoire tragique et lui découvre l'histoire de cette femme qu'il a rencontrée, dont il ne se souvient pas. Je crois que c'est ça à peu près.
Il se trouve qu'en général, c'est un texte pour les femmes. Et c'est souvent des monologues de la femme qui est là et qui raconte toute sa souffrance et toutes ses projections, tous ses désirs. Et on avait commencé comme ça d'ailleurs. Et puis, pour des raisons logistiques, de regard dans l'espace, de placement de la comédienne, j'ai fait le rôle de l'homme qui est absent, parce qu'elle lui écrit quand elle va mourir dans son endroit perdu, dans un hôpital morbide. Et l'homme était là, et puis petit à petit, au fur et à mesure des répétitions, je m'y sentais bien, on plaçait bien des relations entre nous, et l'homme est resté. Et alors que c'est l'histoire de cette femme, ça devient là, en spectacle, l'histoire de ce mec à qui ça arrive, de cette lettre qu'il reçoit d'un amour énorme, absolu, fabuleux. Et lui, il est passé, à 200% à côté de la plaque. Quoi. Et il s'en rend compte et il cherche des éléments de sa vie quand même, puisqu'il l'a rencontré plusieurs fois. Il y a des trucs fugaces, sensibles, intéressants, émouvants, et ça repart et ça revient. Et c'est devenu un peu plus complexe, l'histoire de cette femme et ensuite de cet homme à qui c'est arrivé. Enfin voilà.
En fait, c'est l'histoire d'une femme qui a consacré sa vie à un homme, qui a pratiquement sacrifié sa vie à un homme, et lui s'en est même pas rendu compte.
Il ne faut pas dire ça, ça fait du mal.
C'est un peu plus compliqué que ouais. ça. C'est même beaucoup plus compliqué que ça.
Et c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs.
Voilà, ouais. Parce que ça parle de plein de choses. Ce n'est pas qu'une histoire de femme. Ce n'est pas qu'une histoire... on aurait pu se fixer aussi sur lui, hein, qui rêve cette histoire aussi. Moi, je pense que c'est 22, c'est l'après-première guerre mondiale, et je crois qu'il y a aussi une grande dimension aussi de repenser la condition féminine. Mm-hmm. Je sais que là, je m'éloigne de l'onirique et je vais vers quelque chose un peu prosaïque, mais il y a beaucoup ça, parce que cette femme, elle souffre à cause de sa condition de femme. Le fait que les femmes ne peuvent pas déclarer leur amour, le fait que ce monsieur, pourtant qui se comporte bien avec elle, parce qu'il se comporte toujours très bien avec elle, il se préserve, parce qu'on comprend très bien que c'est lui-même, c'est Zweig qui parle. Mais voilà, même malgré ça, elle ne peut jamais lui dire « c'est moi, tu vois, c'est moi la petite fille ». Et donc, les femmes qui enfantent, qu'est-ce qu'elles peuvent devenir ? Elle, avant, elle était dans un magasin, évidemment qu'elle ne peut pas continuer de travailler dans un magasin puisqu'elle a un enfant. Fille mère, elle ne peut pas avoir un emploi décent. Elle ne peut pas être quelqu'un de décent. Et on discutait de ça hier dans le tram en rentrant avec Christopher. Il m'a dit, mais il y a des choses qui sont encore comme ça. Parce que moi, je ne me rends pas compte, pas forcément. Mais dans les années, longtemps, années 70, je me souviens très bien que les femmes ne pouvaient pas déclarer leur amour. C'était impensable. C'était toujours les hommes. Et il paraît que ça n'a pas beaucoup changé.
C'est vrai. Et ça va encore plus loin. C'est-à-dire que Zweig, qui est dans une époque charnière, effectivement, juste après la Deuxième Guerre mondiale, la fin d'un 19e aisé pour toute une tranche minuscule de la population et du 20e siècle, de beaucoup plus de bouleversements, et on arrivera après la crise de 29, etc. Zweig écrit une belle histoire d'amour, d'un romantisme profond et éculé, on a du Goethe, on a du Victor Hugo, c'est enflammé, c'est beau, c'est écrit, c'est magnifique. Et derrière tout ça, il nous raconte effectivement la condition de la femme, la difficulté des relations, l'image, le qu'en dira-t-on, l'image dans la société, les difficultés dont tu parlais, etc. Donc effectivement, il y a tout un tas de profondeur. Quand on s'attache au texte, parce que c'est un magnifique texte, on se laisse prendre par ce côté classicisme. Et puis il y a tout ça qu'il y a derrière, qui revient. Et dans le texte de l'inconnu, il y a toujours cette idée des répétitions. Et elle revient, elle redit toujours la même chose, elle va toujours un peu plus loin, elle va toujours creuser un peu plus loin.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est le décalage du temps. C'est-à-dire que c'est une femme qui parle d'une adolescente, puis d'une jeune femme. Et il y a ce qu'elle a vécu, on a les deux émotions en fait. Il y a ce qu'elle a vécu dans ce passé, en tant qu'amoureuse qui ne pouvait pas se déclarer, sauf à être une femme facile, ce qu'elle a été, parce qu'elle était énormément attirée vers lui. Et puis il y a celle qui est maintenant en train de mourir, qui a perdu son enfant, qui est une femme à présent, et qui parle au présent en disant adieu, et qui se soulage en parlant. Et c'est cette seule espace de liberté qui lui est donné. Et la scène dit ça aussi.
Ce qui est d'autant plus magnifique que c'est horrible, c'est-à-dire qu'elle fait ce travail de mémoire et de souvenir, et lui à côté fait ce travail d'anti-mémoire et de souvenir confus, diffus, absous.
Mais j'ai l'impression de le sentir ému aussi parfois, cet homme. Il se rend compte, mais il assume quand même, puisque comme le dit Tito, il s'est toujours bien comporté, il ne lui a pas fait croire un mariage ou autre chose.
Alors dramaturgiquement, c'est intéressant parce que je n'ai jamais vu le rôle de l'homme sur scène, donc c'était quelque chose qu'il a fallu complètement qu'on imagine, et ce n'était même pas prévu quand j'ai préparé le spectacle. Donc ça s'est fait petit à petit, il y a une espèce d'évolution entre l'idée, la redécouverte de cette lettre, de ce texte, donc on s'en rappelle, mais en même temps on ne sait toujours pas où c'est, donc on va chercher dedans. Et petit à petit, il est entraîné par cette histoire d'une personne qu'il n'a pas connue, mais qui est magnifique. Alors, et moi, j'y mis du moi, quoi, en me disant, mais si quelqu'un m'avait aimé comme ça et que je ne l'avais pas vu, mais quel con je serais. Et en même temps,
ça a dû m'arriver.
Évidemment. Non, mais moi, je voulais venir sur le jeu. Donc, bon, c'est un presque monologue. D'abord, évidemment, on aurait dû commencer par là, par féliciter déjà votre travail de comédienne. Mais aussi, comme je vous ai dit à la sortie, moi, je pense que votre rôle muet, presque, est très difficile. Moi, je m'imagine qu'est-ce qu'on peut bien faire quand il y a un rôle aussi imposant à côté de soi. Même si les regards sont forcément attirés vers... Il y a bien, moi-même, je vous ai regardé. Hein, donc, il faut exister à côté. Et vous le faites vraiment, c'est remarquable. Parce que jamais... Il y a des moments où vraiment, quand il faut qu'elle soit pas... qu'elle soit ailleurs, hein, voyez, par rapport à vous, vous êtes ailleurs aussi. Et quand il faut que vous soyez ensemble, vous êtes ensemble. C'est un bon travail.
C'est gentil, mais bon alors, travail. Effectivement, on ne savait pas où aller. J'ai demandé à quelqu'un de nous regarder, de me faire travailler, parce que, étant metteur en scène, j'étais son spectateur. Je lui ai dit, tiens, fais attention, ça va plus loin, etc. Et je ne jouais pas. Et au fur et à mesure qu'on arrivait, on approchait la première,
Je pouvais essayer de faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire parce que j'étais pris par sa présence, par son jeu, par l'émotion. Elle dégage une émotion énorme. Et même à la 43e fois, j'étais pris par cette émotion. Je devenais comme ça. Et il a fallu vraiment que quelqu'un me dise, non, tu te mets là, tu penses à ça, tu fais ça, parce que j'avais beau avoir des idées, je n'y arrivais pas, je ne le faisais pas. Effectivement, et c'est venu après. Et après, dans les représentations, c'est plus facile parce qu'il y a un public. Et donc, il y a cette nécessité d'exister, d'avoir son histoire et non pas juste d'être le sparring partner, quoi, mais vraiment de promener son histoire là-dedans. Ouais.
C'est vrai que vous avez dit que vous aviez attendu 15 ans avant de trouver la bonne comédienne. Je pense que vous avez bien fait d'attendre, puisque c'était un travail remarquable. Et vous avez parlé de la mise en scène. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que je l'ai trouvée discrète, subtile et terriblement efficace. Pour les moments d'effacement d'un personnage, l'apparition de votre personnage, je trouvais ça très bien aussi.
Ce qui est drôle, c'est que comme je joue, je ne sais pas du tout ce que ça donne. On a bien une vidéo, mais ça ne représente rien des ressentis, des relations entre les personnages, parce que la vidéo est plutôt cadrée, si on prend tout l'espace, on ne voit rien. Et donc, je ne sais pas du tout ce que ça donne, on ne marche que par sensation, réaction du public, réaction des professionnels qui sont un peu plus précis, mais je ne peux pas savoir ce qui se passe parce que je n'arrive pas à le voir, parce que je me souviens que quand je regardais en répète, je n'étais pas du tout là, quoi, donc je...
Et quelles sont les réactions du public, parce que c'est un spectacle qui tourne depuis quelque temps, je pense. Oui.
Et alors on a deux choses, on a les amateurs de Zweig qui se répartissent en deux, qui sont très 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 nombreux, c'est fabuleux. Là, il est dans le domaine public depuis un an, donc il y a des rééditions, mais ça se lit en librairie, en poche, en audio livre. Il y a des films, il y a des spectacles, il y a un nouveau avec Tim Seat là qui va sortir bientôt. Il y en avait un, il y a eu la lettre il y a pas longtemps à Paris, etc. Donc effrayant, il y a beaucoup de. Alors il y a ceux qui nous disent, oh non, c'est trop beau. On peut pas regarder une autre interprétation. C'est peut-être bien ce que vous faites, mais chacun se fait une histoire énorme de lecteurs, et en particulier de lectrices. Un homme qui est souvent dans ses personnages, va très loin dans décortiquer l'âme féminine, mais aussi masculine quand même, un peu, s'y connaît un tout petit peu aussi. Et puis ceux qui viennent et qui nous disent, ah, alors là, on s'y attendait pas, on a quelque chose de beau. Et certains ont des références au film, on nous en a parlé encore tout à l'heure, qui est un peu différent qu'une autre adaptation d'un autre contexte, mais avec un très beau film aussi.
C'est un film de Max Ophuls.
C'est ça, oui.
Max Ophuls, oui.
On s'y attendait pas parce qu'il y a cette force, alors effectivement, de la comédienne, de l'émotion qu'elle raconte. On part dedans, on est dans une réalité vraiment. Alors, on est dans le romantisme, on a un vrai réalisme de situation dont vous parliez tout à l'heure. Et tout ça est très, très fin. Et on joue dans des petites salles et il y a un rapport très, très, très proche, très, 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 très intime avec le public et les comédiens.
Oui, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir la diversité des réactions. C'est un spectacle qui, je pense, ne laisse pas indifférent. Il y a eu des femmes, notamment, qui sont venues à la fin du spectacle, mais... révoltée, presque agressive d'avoir vu une femme présentée justement dans la condition qui n'est plus tout à fait la nôtre, heureusement, mais de la voir si soumise, si offerte, et que ça choquait. Il y a des hommes qui sont bouleversés aussi, soit par l'homme, soit par la femme. Il y a des gens, effectivement, des intellectuels qui connaissent le texte et qui ont peur et qui nous disent, et ça, c'est vrai que ça fait un immense plaisir, hein, soit j'ai encore davantage apprécié, soit ça n'a rien trahi et c'était très beau, soit des gens qui ne sont pas du tout, qui ne connaissaient pas du tout le texte, qui ne lisent pas et qui sont touchés parce que, oui, c'est une langue classique, oui, c'est une langue belle et en même temps, c'est une langue très simple. C'est une langue qui arrive droit au cœur, qui est à la portée de tout le monde, quoi. C'est pas et c'est ça qui est vraiment magnifique.
Mais justement, est-ce qu'on pourrait avoir, si c'est possible, un petit extrait du texte, si cela est possible?
Oui, oui, oui. Et cependant, à vrai dire, je passais mes journées à t'attendre et à te guetter, tendue comme la corde d'un violon et vibrante comme elle, lorsque ta présence la touchait. J'étais tout occupée de toi, toujours en attente et toujours en mouvement, et cependant, tu ne pouvais pas davantage t'en rendre compte que de l'attention du ressort de ta montre que tu portes dans ta poche, qui accompagne chacun de tes pas d'un imperceptible battement de cœur, tandis que ton hâtif regard les fleurs à peine une seule fois, parmi des millions de tic-tac, toujours en éveil. Je savais tout de toi. Je savais chacune de tes cravates, chacun de tes costumes, chacune de tes habitudes. De ma 13e à ma 16e année, il ne s'est pas passé une heure que je n'ai vécu sans toi. Quelle folie ai-je alors commise ? Je baisais le bouton de la porte car ta main l'avait touché. Je dérobais furtivement un mégot de cigarette et pour moi il était sacré car tes lèvres l'avaient effleuré. 100 fois le soir, sous n'importe quel prétexte, je sortais dans la rue afin de voir dans laquelle de tes fenêtres il y avait de la lumière et sentir ainsi de façon plus concrète ta présence, ton invisible présence. Et les semaines où tu partais en voyage, quand mon cœur battait de crainte, lorsque je voyais ce brave Johan descendre ton sac de cuir jaune, ces semaines étaient pour moi mortes et sans objet. J'allais et venais, de mauvaise humeur, avec ennui et méchanceté, et il fallait toujours veiller à ce que ma mère ne remarquât pas mon désespoir à mes yeux rougis de larmes. Tage lang, stunden lang.
Pendant des heures, pendant des journées entières.
Könnte ich dir erzählen, wie ich damals mit dir erlebte?
Je voudrais te raconter comment j'ai vécu alors avec toi.
Da du mich kaum von Gesicht erkanntest.
Avec toi qui connaissais à peine mon visage.
Denn begegne ich dir in der Treppe und gab es kein Ausweichen.
Car lorsque je te croisais dans l'escalier et que tu passais sans me regarder.
So lief ich mit versenkten Kopf an dir vorbei.
Je passais devant toi en courant, tête baissée.
Wie einer, der sich ins Wasser stürzt.
Comme quelqu'un qui veut se jeter à l'eau.
Nur dass mir das Feuer nicht versenke.
Et tout cela pour te cacher le feu de mes joues.
Tagelang, stundenlang.
Je voudrais te dérouler tout le calendrier de ta vie, mais je ne veux pas t'ennuyer, je ne veux pas t'importuner. Je veux seulement te dévoiler le plus bel événement de mon enfance. Et je te prie de ne pas te moquer de son impertinence, car pour l'enfant que j'étais alors, ce fut un infini.
Bravo, bravo, c'est magnifique.
C'est splendide. C'est splendide.
Et c'est vrai que c'est un exercice difficile de le faire au micro, c'est tout à fait différent, tout à fait différent de la scène. Mais là, c'était superbe, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
J'ai retrouvé l'émotion que j'avais ressentie pendant la pièce.
On va rappeler que c'est au théâtre Pierre Tabar. Je n'ai pas les horaires sous le nez. C'est
à 19h.
À 19h
tous les jours.
Et dimanche à 14h30.
Jusqu'à la fin de la semaine, donc voilà. Mais courez-y, donc moi je n'ai pas encore vu la pièce, mais Tito et Christopher m'en ont parlé avec beaucoup de chaleur et d'émotion.
Oui, absolument.
Voilà, il va être l'heure de se quitter. Merci à vous de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau. Eh bien, on va se retrouver, nous, la semaine prochaine avec l'actualité théâtrale de la semaine prochaine. Et donc, Vendredi Théâtre, c'est terminé. Très bonne semaine théâtrale à tous et à la semaine prochaine.